C'était donc la truite de Schubert, et maintenant place à Bibliomanie.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique l'incontournable Flo Descailloux, qui a beaucoup travaillé pour l'émission, et grâce aussi à l'auteur que je vous présente, Henriette, notre invitée du jour, Henriette Chardac, qui vient nous présenter L'oublié de Salerne, le roman de Trotula, médecin, sage-femme et féministe du XIe siècle. Ça vient de paraître aux éditions Le Passeur éditeur. Henriette Chardac, bonjour.
Bonjour Valère-Marie.
Donc on s'était vu au sujet d'Élisée Reclus, nous avions fait une passionnante émission et rencontre autour d'Élisée Reclus. Nous nous retrouvons autour d'une oubliée, l'oubliée de Salerne. Et mon petit doigt me dit que, Henriette Chardac, que vous aimez bien les têtes chercheuses. Hein, et comme je suis moi-même une petite tête chercheuse, et que voilà, c'est pour ça qu'on vous invite en plus à l'émission Bibliomanie, parce que voilà, vous êtes vous-même une tête chercheuse, vous aimez bien les têtes chercheuses, et vous nous parlez ici d'une femme passionnante, oubliée de Salerne d'ailleurs, mais Trotula, qui est la première femme médecin, sage-femme, féministe à sa façon, enfin une femme étonnante, complètement oubliée, plagiée, méconnue, plus que méconnue. Alors, qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de ce que vous appelez votre film de papier ?
Alors, vous avez bien présenté le labyrinthe. C'est-à-dire que quand on a une formation de journaliste comme vous, on fait des enquêtes, on est un petit peu le flic de l'histoire, et on a la chance de pouvoir parler de sujets qui fâchent, mais qui fâchaient il y a un, deux, trois ou siècles, voire mille ans. Alors, Trotula, ça veut d'abord dire la truite, Trotta, Trotula, la truitelle, et merci pour Schubert. on voit qu'on va tourner autour du poisson, mais je ne vais pas noyer le poisson. Trotula, on en parle très, très, très rarement dans l'histoire. Mmh. Le premier qui en est parlé, c'est Rabelais, qui a dit un jour, oui, on parle d'un médecin du XIe siècle qui s'est occupé des maladies des femmes, mais ce n'est pas Eros. Eros n'a pas existé. Mmh. C'est juste pour masquer le fait qu'il y avait une femme médecin, professeure de médecine, et bientôt directrice de la première école laïque de médecine en Europe. Bon, ça ne fait pas un sujet. Mais j'ai fait un deuxième film de papier. Je me suis plongée dans la vie de Léonard de Vinci et je m'aperçois de deux choses. La première chose, sa maman venait d'Inde, du Gujarat. Donc, elle était très grande et on l'appelait fille de Trotula parce qu'elle avait été visiblement violée par le père de Léonard et donc c'était une fille mère. Donc, j'ai voulu faire une note sur Trotula. Di Ruggiero, et je me suis rendu compte que la note augmentait au point de devenir un livre.
Voilà. Il faut dire que vos notes, Henriette Chardac, sont très abondantes. C'est-à-dire, ce sont des notes, c'est comme des ouvertures, comme des fenêtres sur cours. Ce sont des notes, à chaque fois, c'est une histoire dans une autre histoire. Vous ouvrez vraiment une grande fenêtre sur un point, et là, et votre éditeur d'ailleurs a bien fait les choses, puisque ce sont des petits paragraphes semi-encadrés, on peut, pour les lecteurs, aller encore plus loin, cheminer encore, s'ils ont envie de chercher, ils chercheront, s'ils ont envie de trouver, poursuivent leur enquête à leur tour. Hein. Nous sommes tous des lecteurs enquêteurs ou lectrices enquêtrices, comme on dit. Vous dites, voilà ce que vous écrivez, Henriette Chardac. Mon film de papier est aussi une enquête menée minutieusement et après 1000 ans, après la naissance de Trotula, on n'a pas fini de la découvrir. En 1737, des historiens ont trouvé un manuscrit dit de Brello, un recueil de 35 traités appelé Collection Salernitaine. Voilà, et à chaque fois on sent... Je sais aussi que vous êtes réalisatrice, vous avez une expérience aussi du théâtre. Comment conciliez-vous, Henriette Chardac, toutes vos activités? Est-ce que ça forme un tout? Est-ce que là, on parlait des notes en bas de page qui vous ramènent à Trotula? Vous n'êtes pas un peu truite vous-même?
Je suis un petit peu truite, mais parfois je manque d'eau. Je vous explique. Quand j'étais très jeune, je voulais faire des longs métrages. J'en ai fait deux par an Super 8. Mais après, passer la porte du professionnalisme, à part Ken Russell qui m'a pris, j'avais à peine 20 ans, pour être stagiaire, en France, c'était impossible. Et un jour, je me suis infligée à moi-même le fait de rester assise sur ma chaise et de trouver comment je pouvais faire des films qui coûtent pas cher,
oui,
avec ou non 1000 figurants. Et je me suis dit, mais c'était un film de papier.
C'est une belle expression. Qu'est-ce que l'effet Mathilda, Henriette Chardac? Vous écrivez, des femmes édifiantes ont été glissées sous le tapis de l'ego d'hommes qui les ignorent depuis la nuit des temps. C'est l'effet Mathilda, l'art de cacher le rôle des esprits féminins dans l'avancée des sciences et particulièrement en médecine. On en est toujours là, hein, quand même.
Ça n'a pas changé. Et je dois dire que je pense même que Trotula a plus de chance que les MeToo. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu à se battre. Elle a demandé est-ce que je peux faire médecine? À l'époque, c'était une école de médecine qui était également un hôpital. L'effet Mathilda, qui s'écrit M-A-T-I-L-D-A, évoque les personnes qui ont fait des découvertes phénoménales, dont on a masqué l'existence, oublié le nom. Comme ça, ça revient à une simplicité vraiment agréable pour les hommes. Les femmes ne pensent pas. Elles n'ont pas de cerveau. C'est bien connu.
Et en plus, alors, il y a un mot qui est très important dans votre titre, c'est l'oublier. L'oublier de Salerne. Vous écrivez « Le temps nous efface comme crée sous la pluie ». Donc on sent que vous, même dans tous vos livres, je crois que c'est le 21e, c'est le 21e
c'est possible,
livre.
Ouais.
On sent que vous voulez remettre à leur place des personnages, on parlait d'Élisée Reclus comme nous nous sommes vus, on sent qu'à chaque fois vous voulez remettre sous l'éclairage, sous le feu des projecteurs, un personnage qui est passé dans l'ombre de l'histoire, dans les coulisses de l'histoire, dans les trappes de la postérité. On sent que vous voulez sortir ces vies méconnues qui ont tant fait pour nous. Et Trotula, vraiment, c'est une femme non pas exemplaire, parce qu'elle était intrépide, hein, elle était révolutionnaire plutôt.
Oui, on va le découvrir. Moi, c'est très simple. Quand j'avais 4-5 ans, je n'avais pas de grands-parents, je n'avais pas beaucoup d'oncles et tantes, j'avais juste un oncle et sa femme. Et je me suis rendu compte que dans les albums de famille, il y avait un grand manque, qui avait au moins 500 personnes qui avait été photographié. Je passe la parenthèse. Et la vie m'a semblé être un miracle quand elle peut continuer librement. Et je me suis dit, plutôt que d'avoir un esprit de vengeance ou de colère, il faut mettre en lumière, par exemple, mon grand-père qui réparait des machines, qui projetait des films. Il faut mettre en lumière... les humbles, modestes, mais qui ont découvert des vaccins et qui ne s'appellent pas Pasteur. Et ma curiosité, elle a été dans la mémoire. Et comme le dit Anatole France, si on ne connaît pas le passé, on n'a pas de présent et donc pas d'avenir.
Mais Trotula, c'est un poisson, c'est une femme poisson qui remonte comme le saumon, elle remonte jusqu'à... c'est un peu le chemin... C'est elle qui prend la parole dans votre roman Henriette Chardac. C'est une femme truite qui est très vive comme les truites. Elle se laisse pas saisir, on peut pas l'attraper. Et elle remonte le cours du temps, le cours de sa vie. On a l'impression qu'elle remonte le fleuve de sa vie.
Je pense qu'elle a été sa vie tellement intense. Je commence par la fin.
Elle est née quelle année d'ailleurs?
Elle est née en 1050 et elle est morte en 1097. Et en 1097, on connaît le jour de sa mort. Il y avait l'équivalent sur une route de entre 3 et 4 kilomètres. Vous voyez la largeur. C'est-à-dire toute une ville, Salerne et au-delà. Et elle a cessé d'être une icône belle, parce qu'elle devait être merveilleusement belle et sublime et intrigante quand elle allait au cours. Elle était la seule femme au milieu d'hommes qui venaient de l'Europe entière. Et elle subjuguait. Mais elle a été dans la modestie de vouloir soigner les femmes parce que c'était le boulot le plus horrible pour un homme. Parce qu'il fallait accoucher sous le jupon. Il ne connaissait rien à rien à la gynécologie, c'est-à-dire à soigner une femme. Elle s'est intéressée à la pédiatrie. Et cette femme, elle avait tout. Elle était belle, intelligente. Elle était aimée de son mari, qui était également médecin, urologue. Elle aimait son mari. Elle a eu deux enfants. Elle sait ce que c'est qu'une fausse couche. Elle sait ce que c'est que d'accoucher. Et elle sait qu'il faut entreprendre une rénovation totale de la médecine. Parce que même Hippocrate considère la femme comme un objet qui peut reproduire pour un héritage une succession. On pourra donner un champ, un château, etc., etc. Et donc la femme n'est pas considérée.
Oui, Hippocrate, il est carrément misogyne, hein, quand je vous lis. Il y a plusieurs combats. Il y a le combat, d'abord, c'est aussi l'histoire, on va en parler, l'histoire de l'hygiène, qui n'était vraiment pas... c'était pas évident à l'époque. L'accouchement, la césarienne, ça c'est... c'était pour les femmes, c'était... Vous montrez tout ça.
L'accouchement sans douleur.
Sans douleur. La péridure, elle invente la péridure.
Oui. Même si c'est un petit peu traficoté, mais elle sait comment faire. Elle sait qu'il faut une décharge électrique qu'un certain nerf enlève la douleur. Et il n'y a pas d'électricité, vous allez me dire. Eh bien si, elle sait ça.
Elle va prendre un poisson.
Un bon copain.
Aujourd'hui, c'est le signe du poisson volant, on va dire. Elle est fille quand même. Sa mère était sage-femme, je crois. Oui. Et son père aussi médecin.
Hein. Médecin, oui.
Donc elle est quand même une enfant qui est née dans ce contexte. Hein. Elle n'a pas vu le jour comme ça. Elle n'est pas devenue médecin.
Puis elle écoutait aux portes. C'est une coquine. Hein.
Alors, vous utilisez plusieurs thèmes pour désigner les activités de Trotula, mais vous dites justement, alors elle parle de femme médecine, elle parle aussi. Il y a beaucoup d'expressions pour désigner son métier. À ce sujet, ma mère, dit-elle, aimait à dire que son ventre avait été l'unique refuge de sa congrégation, moi, sa seule enfant. Et dans cette phrase, on sent que sa mère lui transmet ce métier de sage-femme. Dont les hommes ne veulent pas s'occuper, mais c'est une lourde charge. Après, elle s'interroge, pourquoi mes parents me donnèrent le drôle de prénom de Trotta, la truite? Je frétillais tant qu'on me surnomma très vite la truitelle. Si ma mère avait mangé du poulet avant d'accoucher, je me demande comment je me serais appelée, peut-être poulette. Hein, mais il y a de l'humour aussi, on sent qu'elle s'interroge, parce que c'est une femme qui est curieuse, qui veut, Henriette Chardac, ouvrir sa connaissance, progresser.
Et pas mentir. Et ce qu'il y a d'exceptionnel avec Trotula, parce que ses textes sont écrits en latin, mais l'Église est présente, elle ne peut pas parler de césarienne parce que c'est interdit, elle devrait aller en prison, pourtant elle va en faire des césariennes.
Oui.
Elle va accoucher d'éphimère, elle va accomplir... après un viol, je ne sais combien d'avortements, c'est interdit. Et donc, il y a des choses qu'elle n'écrit pas, qu'elle suggère, parce qu'on peut lire son travail, ses travaux. Et elle va au-delà, parce que au-delà de l'interdit. Et je pense, je suis à 98% d'accord avec moi-même, c'est que je pense que le manuscrit Voynich, et de Trotula.
Oui, alors, fameux manuscrit de Voynich, sur lequel moi je me suis intéressée et penchée. Il y a quelques années, il y a eu un très beau livre qui... On a fait cette découverte de ce fameux manuscrit assez étrange. Mais ça, nous en parlerons en fin d'émission, si vous voulez bien, Henriette Chardac. Mon prénom m'allait comme un gant. Je frétillais dans le courant des études que je m'imposais. Je voulais parfaire ma lecture du latin, du grec, de l'arabe et des autres langues. Combien de langues parle-t-elle? C'est une vraie tour de Babel sur pattes.
Moi, je pense qu'elle parle le persan et l'hébreu. Enfin, oui. Elle le lit et le voisinage permet aussi l'enrichissement du vocabulaire étranger et étrange. Parce qu'il faut savoir que l'école de médecine de Salerne, il y a une légende autour, mais il y a une réalité. C'est-à-dire que vous soyez musulman, mahométan, juif, ou que vous apparteniez à une autre religion, que vous soyez chrétien, on vous demande d'oublier d'où vous venez, parce que pour tous ces gens-là qui créent cette école de médecine, le seul temple, c'est l'hôpital. Et eh bien, il faut soigner, éviter que la mort s'empare des corps et des jeunes enfants. Il faut savoir qu'en gros, une mère sur deux va mourir en couche puisqu'il n'y a pas d'hygiène.
Oui, yeah.
Et que cette école va s'inspirer des médecines arabes en tout ce qui concerne l'hygiène et qu'elle va instaurer des sessions où les médecins spécialistes, parce qu'il y avait des spécialistes, confrontaient leurs expériences pour arriver à un niveau de connaissance tel qu'on ne pouvait pas dire que c'était autre chose. Donc, elle va se laver les mains, elle va avoir moins de décès. Et c'est extraordinaire parce que c'est une médecine vivante qui est née de l'expérience et de l'approche humaine. Et elle prend du temps et elle apprend à ses élèves. Elle va avoir 10 femmes élèves et d'autres hommes, elle va leur apprendre le temps nécessaire d'écoute du patient, et quand c'est une femme, de comprendre pourquoi elle croit être enceinte alors qu'elle ne l'est pas, pourquoi on la traite de sorcière, parce qu'il se passe une chose extraordinaire à Salerne. Dans cette région, et uniquement dans cette région, des mamans vont donner naissance à des jumeaux dont un n'est pas viable, parce qu'il n'a pas de tête. C'est, on dirait un crapaud. Il est grumeleux. Et on dit qu'une femme qui donne naissance à deux enfants, dont un est diabolique, c'est qu'elle a commis l'adultère et que Dieu, dans sa grandeur, désigne cet enfant comme le signe que la mère est absolument une sorcière. D'ailleurs, les femmes, c'est bien connu, attirent les hommes pour leur attirer des ennuis. Et elle va s'intéresser...
Elle va protéger ces femmes.
Ouais, d'abord, elle va enterrer ce qu'on appelle
l'enfant
crapaud, hein, ouais. le frère de Salerne, c'est le surnom qui est donné. Et elle va questionner les mamans pour savoir si dans la famille, il y avait déjà des enfants crapauds. Et sans prononcer le nom ni l'écrire, mais elle dit que c'est un héritage familial. C'est pas, elle va
donc
pas
elle
dire.
Elle découvre l'intuition de l'ADN.
Voilà, de la génétique.
De la génétique.
Donc, mais elle le et comme et elle va s'énerver très fortement parce que c'est une forte tête. Hein, c'est comme un brochet dans ce cas-là. quand on lui dit qu'une femme ne peut pas avoir d'enfant parce que c'est elle qui est stérile, elle dit oui, mais il y a des hommes stériles et elle le démontre à ses élèves. Et elle va commencer à changer la perception de la logique médicale.
Oui, voilà. C'est l'expérience qui amène à la connaissance et non pas la connaissance qui va amener l'expérience. Mmh. On sent ça. Est-ce que Trotula est-elle tout simplement une guérisseuse? Mais on a une connotation sur ce mot de guérisseur un petit peu chargée de croyance. Donc c'est peut-être, elle est surtout médecin, elle est surtout sage-femme, obstétricienne. Voilà ce qu'elle dit. Alors, quelle pourrait être sa devise à Trotula? Je prononçais mon premier mot, celui que j'avais sans doute le plus entendu. Guérison.
Ouais.
Guérir. Voilà le maître mot qui s'inscrivait en moi avant même que j'y pense. Transmettre est le dernier verbe qui me fait vivre. Transmettre et guérir.
Voilà. Parce qu'elle a compris qu'il manquait quelque chose, comme pour une truite, il faut de l'eau et une eau pure et claire. Et ben, pour être médecin, il faut pouvoir agir. Mais Je pense qu'elle s'adossait à certaines superstitions, mais qu'elle-même n'y croyait pas. Son but, c'était que la femme soit belle, se sente belle, qu'elle soit bonne au sens de généreuse, et que ensuite la santé suivrait. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, une femme qui perdait son mari était veuve. Si elle était très belle, elle avait l'obligation de se balafrer pour ne pas le rester belle. Et donc, comme ça, il n'y avait pas d'héritier, et ça revenait soit à la ville, soit à l'église, soit... Elle s'est battue...
C'est un salaire, ça, hein. Oui, on est d'accord.
Oui. Hein. Et elle a changé ses habitudes-là. Et donc, j'estime que Trotula, on lui doit beaucoup de choses, et elle a été copiée et recopiée, et jamais on ne l'a citée. Bon, c'était... pour moi, comme de découvrir un trésor.
Oui, c'est un trésor. Alors, c'est une femme aussi, elle revisite le langage. Enfant, j'ai apprivoisé des mots savants comme de fragiles animaux inoffensifs. Ces mots font peur maintenant, les ostracisent. C'est une femme de vérité qui cherche la précision du langage. Elle fait aussi l'éloge de la curiosité. La curiosité fut mon premier maître, l'empathie le second. Et il me fallut une patience souterraine infinie. J'aime bien ce mot patience souterraine, puisqu'elle remonte le labyrinthe du corps humain, qui est comme une maison qu'elle découvre. On m'appelle Trotula à cause de la trotte arc-en-ciel. Je suis une sauvage qui tente de remonter aux sources pour repartir vers le futur. Et le futur, elle le sent. On peut dire que c'est une visionnaire, Trotula?
Oui, mais elle s'en rend pas compte parce qu'elle est dans l'action. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est sauver des vies. Par exemple, et ça lui est arrivé plusieurs fois, des jeunes gens ou des jeunes femmes tombent en catalepsie. Elle sait ce que c'est.
Et oui.
Et elle est comme un pompier, en fait.
L'eau, le feu.
Ouais. Mais c'est intéressant qu'on l'ait laissé faire. Et encore une fois, c'est pas une MeToo. Elle ne se révolte pas. Elle a juste demandé, est-ce que je peux faire des études de médecine? On lui dit oui. Mais tu sais, avant, il faut faire 3 ans de philo. Et ça, c'est très intéressant. Parce que j'ai trouvé ça sublime.
Oui, ça serait bien aujourd'hui que les... Pourquoi pas?
Ben oui, parce que qu'on se dise, est-ce que je suis vraiment fait ou faite pour ce métier? Qu'est-ce que j'apporte à l'humanité? Qu'est-ce que ça va m'enlever comme humanité? Parce qu'il faut se durcir, parce qu'elle a vu des choses beaucoup plus terribles que ce que nous voyons, nous. Et elle était seule, hein, au départ.
Elle était seule, elle a dû se battre. La truite a la grande bouche qui sait se taire. Comme elle, tu gardes toujours les yeux ouverts et tu es insatiable. Ton nom en grec, Troctès, le signifie bien vorace, tu es. Elle est vorace de la vie, de curiosité, d'apprendre. Et puis, Henriette Chardin, qui a cette ville, Salerne. Parce que quand même, c'est là que ça se passe. C'est le lieu où ça se passe, malgré tout. Vous dites, Salerne vient du latin salernum. Salum signifie pleine mer agitée. On peut dire que là, c'est agité. Hein. C'est une... Vous dites, c'est un temple profane où l'on apprend à guérir, Salerne. Présentez-nous cette ville de Salerne, quand même, Henriette Chardac.
Alors, on prend un drone où on se met sur le dos d'un oiseau et bon, on arrive dans une anse exceptionnelle. Au niveau des couleurs, et c'est au sud d'Amalfi, déjà. Amalfi, c'est magnifique. Et c'est la mer Méditerranée qui va vers l'Orient, déjà. Il y a une faune et une flore, et cette petite rivière qui vient de la montagne, qui intrigue. Et c'est assez escarpé à certains endroits et plat à d'autres. Et c'est dans cette ville que la générosité et la tolérance se sont respectées. C'est-à-dire qu'on va à Naples ou à Rome, c'est pas la même ambiance. Les Salernitains sont très fiers d'accueillir tout le monde, de prendre le meilleur et de donner le meilleur. Donc, elle arrive dans un bain où il n'y a pas encore trop d'interdits. Les interdits, on les cache au Mont Cassin.
D'accord. Est-ce qu'il y a des traces d'elle actuellement à Salerne?
Il y a beaucoup de chambres d'hôtel qui s'appellent Trotula.
Ah bon, tant mieux. Vous avez été sur les lieux,
oui.
Donc vous avez...
Mais il y a des musées où on parle de la ville, mais c'est plutôt dans ses livres et c'est plutôt dans les dessins. Pour ceux qui nous écoutent, elle dessinait beaucoup de femmes au bain. Elle a inventé la balnéothérapie. par exemple, et elle soignait, on va dire, les femmes après accouchement. Enfin, elle était donc proche des femmes, et donc souvent, elle dessine des.
D'où votre théorie sur le manuscrit de Voynich, le code Voynich.
Enfin, ah oui.
Parce qu'il y a beaucoup de dessins et on voit beaucoup de femmes dans ce.
Et de plantes.
Et de plantes.
Et surtout, on voit la tour du château de Salerne.
Ah! Alors oui, là on se rapproche.
Et puis on voit l'anse de Salerne.
J'aurais
justement.
Dû amener le livre aujourd'hui. Je l'avais dans ma bibliothèque. C'est vrai que c'est un livre assez étonnant, assez énigmatique, mais sa découverte est assez récente.
Oui, mais ça a été découvert en Italie. Mm-hmm. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a des lettres. La graphie de Trotula ressemble vraiment à 80%. Dans ce Voynich. Mm. Et surtout, les dessins sont les mêmes.
Oui, donc là, on n'a pas de.
Ça pourrait être quelqu'un qui a recopié ou qui s'est inspiré.
Ou qui a été à l'école de Trotula.
Ouais.
Elle a eu une école, elle a eu des élèves.
Oui, elle a eu une dizaine d'élèves.
Mm. C'est déjà pas mal. Ne renoncez jamais, dit-elle, le vrai savoir protège. Cependant, je ne comprends toujours pas les pouvoirs de l'écorce, du saule, ni ceux du citron. Il y a de l'invisible agissant quelque part. Et c'est une femme qui est intuitive, qui cherche à concilier des courants contraires, j'allais dire, parce que c'est un siècle où elle, au moment où elle naît, très tourmentée, Henriette Chardac.
Oui, et puis tout semble magique, magie blanche, noire, rouge. Et elle veut comprendre pourquoi, par exemple, les règles sont douloureuses. Alors elle va essayer sur elle-même, et elle le raconte, toutes sortes de produits naturels, et elle va s'apercevoir que c'est le gingembre qui marche pour elle, mais que pour une autre personne, ça va être autre chose, et puis les doses sont très importantes. Elle fabrique aussi des médicaments. C'est une femme absolue, et qui n'a rien lâché dans sa vie privée, comme dans sa vie professionnelle.
Oui, on peut dire que c'est une femme monde, parce oui. qu'elle fréquente, par exemple, le juif Hélinus, le grec Pontos, l'arabe Abdallah, le latin Salernus. Enfin, elle est universelle dans ses centres d'intérêt.
Dans ses centres. Et elle va rencontrer Constantin l'Africain.
Voilà, ça, on va en parler. On va faire une petite pause musicale avant de rejoindre Constantin l'Africain.
Alors, le choix que je vous propose, il vient de notre invitée, Henriette Chardac, et You'd Be Surprised. Pendant 3 minutes, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est, vous allez trouver tout de suite.
He's not so good in a crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. He isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit, he's nothing at all. But in a Morris chair, you'd be surprised. Doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. 'Cause he's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or in a train, you'd think he was born without any brain, but in a taxi cab, and when he starts to cry, I said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger.
Et oui, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie en présence d'Henriette Chardac qui vient nous présenter L'Oublié de Salerne. Ça vient de paraître aux éditions Le Passeur. Henriette Chardac, vous allez tout nous dire sur ce choix musical, sur cette voix bien connue.
Vous allez être surprise. Ben voilà, c'est une star qui déboule dans une école de médecine. Et c'est comme ça que je l'imagine. Et comment on la décrit? Très belle, très fascinante, attirante. Et donc, même les cours, imaginez une Marilyn Monroe qui enseigne, habillée de façon de l'époque, et elle parle d'un ange qui est en fait un genre de diable. Et ben, c'est Constantin l'Africain qui est obligé d'aller se cacher au Mont Cassin parce qu'il a amené des livres totalement interdits. Et ça me rappelle Le Nom de la Rose. En fait, Constantin, c'est un petit peu cet univers-là où les grands livres, je suis sûre qu'il y en a encore à découvrir au Mont Cassin, sont traduits là-bas. On traduisait en latin, de l'hébreu ou de l'arabe, ou même d'autres langues, le persan. Il y avait des zoroastriens qui étaient traduits. Enfin, c'est toutes les médecines qui vont converger. On n'a pas le droit de trouver ces livres à Salerne, mais si vous allez voir les moines du Mont Cassin, ils vous diront ce qu'ils sont en train de traduire.
Alors ça, c'est passionnant. C'est vrai qu'il y a un côté au nom de le Nom de la Rose d'Umberto Eco, hein, vraiment. Il faut dire que vous dites l'Italie est faite de trop de piécettes qui ne tiennent pas ensemble. Il y a la franque, la pontificale, la pouilleuse et la lombarde. C'est un vaste puzzle, l'Italie de l'époque et Salerne en particulier. Alors Constantin l'Africain, c'est un personnage qu'elle rencontre parce qu'il y a beaucoup d'admiration, de rencontres, de lectures. Constantin l'Africain, c'était l'homme que mon père avait caché aux indiscrets. Alors, je demandais à Constantin de me parler précisément de la médecine au couteau, parce qu'elle va être chirurgienne.
Aussi.
Ça, c'est très important une femme. Constantin me parla d'une grande oubliée, Métrodora, qui des siècles avant Jésus-Christ avait écrit sur les maladies des femmes et sur les ulcères malins. Alors racontez-nous cette rencontre avec Constantin l'Africain.
Alors Constantin l'Africain, il est caché par sa famille parce qu'il est recherché, parce que justement il importe une médecine qui n'est pas admise en Occident. Et parce que c'est à Salerne et parce que on a besoin de professeurs qui vont enseigner des choses nouvelles, parce que c'est une ville qui rayonne partout, et ça c'est très intéressant. C'est on n'est pas professeur à vie.
Mais c'est mieux.
C'est le temps où on est bon, on y est, et lorsqu'on veut faire autre chose, on fait autre chose. Et donc, il va rester 7 ans et il va apprendre cette médecine au couteau, c'est-à-dire la chirurgie, où la mort n'est pas au bout. Hein. Et il va apprendre et aussi simplifier les anesthésies.
Oui, parce qu'on apprend beaucoup sur les anesthésies, Henriette Chardac. On apprend beaucoup comment c'est venu, avec quelle substance, elle-même pour les femmes, enfin, comment elle procède.
Et donc, là où le maître va être dépassé par l'élève, c'est quand il a terminé d'enseigner, qu'il revient, il a ouï dire que Trotula fait des césariennes, ce qui est, on a le droit de faire une césarienne sur une femme morte, mais pas vivante. Bon. Et lui va l'assister, et il va voir comment elle va couper les trois couches pour arriver à l'enfant et recoudre. Et il va voir comment elle a préparé la femme psychologiquement, avec des drogues. Elle essaye tout, même le cannabis. elle essaye tout et elle fait du sur-mesure parce que elle s'aperçoit que la psychologie a un rôle très important et que une prime y part va pas avoir la même réaction qu'une mère qui en est à son 12e enfant, par exemple. Et c'est un échange de savoir et d'admiration. Mais c'est, je crois, le seul homme qui ait écrit qu'il l'avait vu faire et qu'il l'admirait. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir été un professeur, il a été un miroir de ce qu'elle a fait et qui prouve que c'est bien elle et pas un homme qui s'appelait Eros.
Oui, tout à fait. Constantin se moqua gentiment du symbole de la truite. Trotula, la truite est baptisée d'office, discrète dans les profondeurs. Tu te déplaces avec une aisance dans les savoirs, parfois avec une rapidité qui m'étonne. Alors, il y a aussi Avicenne, c'est-à-dire finalement, Constantin me procura des traductions sur la façon de faire des examens cliniques selon Avicenne. Le praticien s'intéressait aux cinq sens, au toucher, il distinguait 60 variétés de poux regroupées en 10 genres. Alors, on tombe avec vous, Henriette Chardac, dans l'infini des diagnostics du corps humain.
Et on doit réagir, oui. Parce que aujourd'hui, si vous connaissez un médecin généraliste qui sait bien palper votre ventre et vous dire de quoi vous souffrez avant de vous envoyer faire 36 000 examens qui ne servent à rien, quand vous aurez rencontré un médecin généraliste qui connaît toutes les façons de prendre le pouls, oui, et d'en tirer des conclusions avant de faire je ne sais combien d'analyses. Récemment, j'étais pas très 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 bien et je suis allée voir mon médecin traitant. Donc, il fallait faire une prise de sang. J'avais trop de globules blancs. Alors, il faudrait faire d'autres enquêtes. C'est peut-être les poumons, c'est peut-être ceci, cela. Je vais vous dire. Je suis allée relire Trotula.
Oui, parce qu'il y a plein de... En plus, les lectrices vont trouver, les lecteurs vont
trouver. Et puis, je me suis nettoyée le nez avec de l'argent colloïdal, ce qu'elle appelait de l'eau argentée. Et puis, mon mal de sinus est parti.
Oui, l'eau argentée, elle en parle beaucoup. alors, Avicenne, vous dites, Avicenne, elle est du plus simple au plus complexe. Un bon sommeil rend le sourire. Ce que j'ai appris de lui, c'est la belle ossature des choses et des modes de vie favorables. Un nouvel environnement peut être curatif. Alors, Avicenne, elle est un peu plus, quand même, nuancée avec lui, j'ai l'impression. Elle a moins de...
d'atomes crochus, voilà. Parce que les femmes et les hommes médecins, ça fait toujours deux. En revanche, pour elle, Avicenne est le plus grand, dans la mesure où il a trouvé le lien entre le psycho et soma, les maladies psychosomatiques. C'est lui qui lui ouvre les yeux sur ce que c'est qu'une maladie psychosomatique. C'est lui qui va lui ouvrir les yeux et d'autres, dont j'ai oublié les noms, c'est pour ça que je les ai écrits, c'est que quand elle voit un enfant qui bégaye et qu'elle se rend compte qu'il a subi un traumatisme tel qu'il bégaye parce qu'il n'est pas sorti de son trauma, et qu'elle trouve la cause et que l'enfant arrête de bégayer. Donc, c'est grâce à des anciens. C'est-à-dire que de tout temps, et c'est là où les bras m'en tombent, il y a toujours eu des humanistes médecins. Mais à un moment donné, l'Église, elle préfère que ça soit une prière, elle préfère qu'on dépose et qu'on achète un ex-voto, parce qu'on a mal à la jambe, ou mal au crâne, ou qu'on voit plus clair. Non, mais alors qu'elle, elle veut guérir. Et donc, elle fait une concurrence. Et je pense que l'Église l'a laissé faire. Parce qu'elle était protégée par beaucoup de personnes, mais qu'on l'a oubliée parce qu'elle soignait trop bien. Elle prouvait que c'était mieux qu'une prière. Une prière pouvait accompagner, mais ne guérissait pas.
Elle apporte une réponse thérapeutique. Voilà ce qu'elle apporte, Trotula. Il y a une chaîne continue des êtres et des vies qui se trouvent améliorées par le savoir. Le titre obtenu n'est rien. Il faut la durée pour comprendre un corps. Galien, je crois que c'est elle, parce qu'elle parle, elle nous parle, Trotula. Galien distinguait trois puissances, la pensée, l'imagination et la mémoire. Pour en être sûre, je voulus mieux connaître le cerveau. Donc c'est une femme qui comprend la place de la pensée sur le corps, les incidences du vécu sur le corps. Et quand elle, à chaque fois, on sent qu'il y a une rencontre avec chaque patiente.
Mais quand on lit ces livres, au début, on peut rire parce que ça ressemble à du riz casaraï. C'est-à-dire que elle va parler d'une plante, enfin voilà,
c'est bon ciel,
voilà. C'est, et en fait, elle explique ça à ses élèves, c'est que elle passe par la beauté pour arriver à la santé. Et c'est très intéressant parce que en lisant ses livres, moi-même, je suis tombée dans le piège. Je me suis dit, ah, telle plante, elle a tel effet. Ah, le millepertuis, oui, c'est pour les yeux. Puis c'est marrant parce que dans la plante, lui, c'est l'œil, enfin, une sorte de petite lucarne. Et en fait, elle est passionnée dès l'enfance par les plantes et elle veut les connaître de l'intérieur. Ce qui est invisible, elle veut le rendre visible dans le corps des autres.
Tout à fait. D'ailleurs, à un moment donné, aidez-moi à connaître votre ville de l'intérieur tel un corps vivant. Ensuite, nous nous promènerons dans le corps humain à l'aide de dessins. Elle dessinait beaucoup, Trotula ?
Ah oui, oui, oui. Et c'est encore, je reviens à ça. Elle avait des encres très particulières.
Oui, quel type d'encre ?
Ben, une encre ferreuse, c'est-à-dire
ouais,
marron, mmh. Et puis vert un peu aussi. Et elle dessinait à la plume. Et c'est comme des indices pour une enquête. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à Salerne qu'on va trouver tel promontoire où il y avait un jardin des plantes, des simples. C'est le seul endroit où la mer est juste en dessous de la falaise où il y a cette tour où elle était avec une princesse, parce qu'elle a eu également une princesse comme élève. Et elle dessinait de façon naïve, mais... tout est reconnaissable.
Ouais, ne pas s'égarer vers ce qui éblouit, ne pas croire, mais démontrer. Ça, c'est une autre phrase, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des phrases clés. Alors, on sent dans votre écriture, Henriette Chardac, vous avez écrit un livre sur Léonard Vinci. Je dirais qu'on sent l'influence des carnets de Léonard Vinci dans votre écriture. Voilà ce que vous écrivez. « Le médecin devient l'homme glissant vers le terme fatal pour que ta vie atteigne à l'extrême vieillesse, sois vieille avant le temps par tes mœurs et ta sagesse. Si tu comprends ce texte, ne pense plus à la mort mais à la vie. Admire la beauté où qu'elle soit, recherche l'exactitude et ne crains pas le doute. » J'ai pensé tout de suite au carnet de Léonard, là.
Oui, mais c'est l'Italie, enfin, mais c'est quand même 3-4 siècles avant. Ce qui est intéressant, c'est comme une banque de bonheur et de générosité. C'est-à-dire que tous les philosophes, les prêtres, les marchands, les navigateurs, les hommes, les femmes, vont vers le mieux. Ils sont toujours envahis. C'est très intéressant. Et là, je m'en rends compte que maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont subi des vagues d'envahisseurs, mais ils ont protégé leur école de médecine et de pensée. Ça, on ne pouvait pas leur prendre. Et c'était invisible. Si bien que même des papes venaient à Salerne se faire soigner. Ils n'allaient pas à Rome.
Oui, on sent ça. Mais je dirais que votre écriture, on sent l'écriture du carnet.
C'est vrai.
On sent l'écriture. Et aussi, vous adressez au lecteur. C'est comme une lettre. On entend la voix, le murmure de Trotula. Je veux dire qu'on l'entend nous parler à l'oreille, par exemple. Alors, c'est une autodidacte, Trotula, parce que même si ça a des parents qui sont dans la médecine, mes parents s'aperçurent que j'avais appris le latin à l'oreille et par la lecture. Je chantonnais ce que les médecins répétaient avec sérieux sur ce qu'il fallait faire à chaque période de la vie. C'est une curieuse, une indiscrète.
Totalement. Ah oui, ça a dû être simple pour les parents, mais elle a appris comme ça, oui.
Alors aussi, il ne faut manger que ce que ton corps réclame. Soyez mange-feuille, ça j'ai bien aimé. Soyez mange-feuille, sinon les clous du cercueil auront vite le dernier mot. Alors, il y a des expressions comme ça. Ils sont d'origine, Henriette Chardac, ou c'est vous avec
C'est 50-50. C'est-à-dire que quand elle écrit dans ses livres des choses du genre pour vivre longtemps, il ne faut pas manger trop carné. Déjà, on le dit nous maintenant, mais elle le disait déjà. Et elle disait que l'alimentation faisait la santé. Ça, et comme c'est très sérieux ce qu'elle écrit, mais que de temps en temps elle déraille et elle s'adresse au lecteur, j'ai fait un mixte.
Oui, on sent ça. Alors de même pour la nourriture et les boissons, Comment reconnaître le bon vin de la même façon qu'on reconnaît une bonne femme? À la robe, lorsqu'il paraît au verre, le vin a les cuisses propres. Il doit être clair et délié, déchargé de ses excréments. Bon, enfin, il doit être propre. Hein. C'est un vin... Alors, il y a un chapitre que j'aime bien et qui résume bien l'esprit de Trotula Henriette Chardac. C'est à l'école des écoles. Et cette femme est toujours à l'école des écoles aussi. Mais des écoles hors école. Enfin, hors contexte. C'est des écoles buissonnières, je dirais.
Tout à fait.
Elle n'arrête pas de faire de l'école buissonnière. Quels ont été vos modèles quand vous avez écrit, commencé ce gros livre, hein, je dis aux auditeurs.
Oui, il faut les prévenir.
C'est,
ouais.
c'est un roman très nourri. Quels ont été vos modèles? Est-ce que c'était, vous vouliez faire un roman historique? Est-ce que vous vouliez, quels Alors, sont les écrivains qui vous ont guidé dans ce... l'écriture de ce livre.
Je pourrais, c'est ma propre curiosité. J'avais déjà écrit sur Marguerite de Navarre et je me suis rendu compte que on peut pas être extérieur quand on est femme et qu'on raconte l'histoire d'une femme. Et donc pour Marguerite de Navarre, c'était une évidence que c'était elle qui devait écrire ce qu'elle avait dit. Et pareil pour Trotula. J'ai d'abord écrit l'histoire et je me suis ennuyée. parce que, ah oui, elle a fait ça, ah oui. Et son engagement, je ne le vivais pas. Mais, comme auteur, je ne le vivais pas. J'aurais dû trouver des superlatifs à toutes les pages. Et je me suis dit, non, j'enlève ça. Et donc, il faut que je raconte ça à mes élèves, les 10 élèves qu'elle a eus. Andy Carnet, parce qu'elle va donner son savoir-faire, tout ce qu'elle n'a pas pu dire en cours. Et donc, j'ai pu m'appuyer sur son côté un petit peu ludique et lutin. Enfin,
et sur sa voix.
Voilà.
Et sur sa voix, puisque là, nous sommes en plus à la radio, sa voix, ça, de qui parle. Vous montrez aussi les excès de la médecine. Il évoqua la fameuse histoire de Jean, fils de Messuet, dont le nom arabe est Youana ibn Massawai. Ce médecin détestait son propre fils qu'il trouvait laid, au point qu'il formula le souhait de le voir mourir pour le disséquer. Il faut le faire. Mais il y a des abus de toutes sortes.
Hein. Mais elle était en colère en permanence. C'était une furie. Et elle devait être diplomate pour avoir le droit d'exercer. Mais ça l'a choquée.
Oui, il faut dire qu'ils n'arrêtent pas, quoi. Enfin, c'est... Alors, pour ce qui est... Alors elle était aussi... elle aimait bien aussi jouer aux échecs, Trotula. Ça m'a intriguée. Haroun, le calife de Bagdad, avait fait ce jeu au couronnement de Charlemagne. Enfin, mais des daniers. J'ai bricolé quelques heures. Au jeu d'échecs, chacun cherche sa place et tout le monde peut la perdre. Donc, c'était une joueuse d'échecs.
C'est-à-dire qu'à côté des parents, dans Salerne, exactement où, je ne pourrais pas vous le dire, mais il y avait un artisan qui fabriquait les premiers jeux d'échecs.
Ah, voilà.
Et donc, ça venait du monde arabe. Et ça venait d'Orient, comme la cuisine. Enfin, elle était entourée des mille et une nuits. Hein. Je veux dire que... Et son père, c'est son père qui lui a appris à jouer aux échecs.
Oui, ça y est.
Et donc, elle a acquis aussi, je pense, et ça je le découvre grâce à vous, de prévoir 3 coups à l'avance. Pour un pronostic, par exemple. Je pense que dans son processus de réflexion, elle a appris... En jouant aux échecs.
Avec la maladie.
Enfin, oui. À mettre la maladie échec et mat.
Échec et mat. Et aussi, alors vous montrez, alors on parlait des choses un peu, choses terrifiantes, l'Église allait punir les lecteurs de livres de médecine prohibés. Ils seraient vus comme des hérétiques. Alors c'est une époque où on n'est pas libre de lire ce qu'on doit lire. Elle ne peut pas pratiquer comme elle l'entendrait non plus. Il faut dire qu'elle a la liberté.
Mais cachée.
Tout se fait cacher, quoi. Et elle a une fluidité. Trotula, on parlait de l'eau tout à l'heure. Elle s'adapte à tout. Sois rassurée. Nous apprenons tout par cœur et mémorisons les précieux savoirs pour protéger ces précieux alevins. La truite ne change-t-elle pas souvent ses deux caches? Ne prend-elle pas la robe des pierres? Donc, elle passe son temps à se cacher des autorités, en fait, Trotula.
Elle n'est pas agressive, elle a tout compris. Elle n'a pas fri, mais elle a tout compris. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut déranger et ce n'est pas en étant en colère qu'elle va convaincre. Et elle va convaincre plus âgée qu'elle, elle va convaincre ses élèves. Et à la suite de ça, Elle en est une des pionnières, mais va naître la fameuse école de médecine de Montpellier, parce que les élèves de Trotula et d'autres vont former cette école.
Voilà, ce qu'elle dit, je m'appelle Trotula de Ruggiero, je veux devenir accoucheuse, médecin, fabriquer des médecines et recoudre des plaies. Personne ne m'en empêchera. Donc il y a une vocation très forte de Trotula. Quand elle voit quelqu'un, elle est tout de suite... Et aussi, elle constate l'inégalité des uns et des autres devant la mort et la vie. Il y avait une médecine pour les pauvres, une autre pour les riches. Les nobles ne craignaient point la dépense s'ils prenaient de la rhubarbe réduite en poudre fine. Les paysans, eux, n'avaient droit qu'à une macération de prunier mirobolant, un antidote sucré. Tout est là, mais on en est un peu encore...
On en est là.
On va faire une pause musicale, Henriette Chardac.
C'est une révolté cachée, en fait.
Voilà. Hein.
Eh bien, c'est encore un choix de l'invité Henriette Chardac, Cindy Lauper, en 1986, The Faraway Nairby, excusez-moi pour l'accent, Can you hear my call? Pouvez-vous entendre mon appel?
Vous êtes bien sûr Radio Libertaire, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui en présence d'Henriette Chardac qui vous dira tout sur L'oublié de Salerne, le roman de Trotula, médecin, sage-femme et féministe du XIe siècle. Ça vient de paraître aux éditions Le Passeur. Henriette Chardac, pourquoi ce choix musical revigorant, j'allais dire?
Eh ben, parce que c'est encore une chippie. C'est quelqu'un qui disait... Cherchez vos vraies couleurs. Hein. Le tube, c'était True Color. Et là, c'est ça, c'est une chippie qui ne va pas rester très longtemps connue. Bah, elle va vendre beaucoup de disques et puis après, on perd sa trace. et chercher une voie. Et je pense que Trotula doit avoir une voie entre le miel et les cornichons bien acidulés.
Voilà. Alors, faut dire que Trotula, bah, c'est un sacré tempérament. Elle forme un beau couple avec son mari, d'ailleurs. Ils sont un peu, c'est son alter ego, lui aussi, oui. Médecin. Enfin, vraiment, sa vie est bien pensée. Elle a cette conquête de la liberté. C'est une vie pleinement épanouie, Henriette Chardac. Elle dit, toi, j'aime tes paroles cicatrisantes. Oui, je serai une femme médecin. Donc, une volonté très nette qui s'affirme.
Et puis, son mari va devenir un cobaye, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne s'écrase pas devant lui. Et c'est sans doute, j'en suis persuadée, parce que si ce n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas pu le dire et l'écrire. C'est en discutant avec lui qu'elle va lui démontrer, parce que lui, il est persuadé, que la stérilité ne peut être que féminine. Et elle, non seulement elle va engager une discussion, mais elle n'a pas peur d'être contre son mari, puisqu'ils sont tous deux médecins. Et qu'elle pense, et lui aussi, que la médecine n'en est qu'à ses balbutiements. Donc, il faut bien réfléchir. Et je rappelle qu'ils ont eu quand même tous et toutes, après, 3 ans de philo. C'est-à-dire se poser des questions, avoir le droit au doute et confronter des arguments. Et cette école permet l'argumentation. Et dans le couple également. Et donc, c'est une femme qui, la première, va dire à son mari, je ne suis pas d'accord et je vais te le prouver. Et deuxièmement, quand il y a des femmes, par exemple, stériles réellement, et que le mari l'est aussi, etc., et qu'il y a des filles mères qui ne veulent pas garder l'enfant, elle va faire des choses absolument horribles. Elle va discrètement donner cet enfant, on va dire aujourd'hui, né sous X, elle va le donner à YZ. Mais elle sanctifie la vie. Et dans son couple, elle sanctifie l'amour de ses enfants aussi. Elle va élever ses enfants en les laissant libres de choisir leur voie. Mais ils ont baigné dans la médecine, ils seront également dans la médecine. Mais voilà, donc c'est une femme qu'on ne trouve même plus aujourd'hui.
Ben, c'est une femme qui est amoureuse de la vie, qui défend la vie. Et dans votre roman, Henriette Chardac, c'est comme un arbre foisonnant. Parce que, par exemple, je parlais des notes, notes en bas de page, qui sont comme des petits romans. On apprend plein de choses. Et entre les lignes aussi, on apprend plein de choses avec vous. Par exemple, les anciens Égyptiens, c'était d'excellents ophtalmos. Vous écrivez visiblement, les Égyptiens se portaient mieux que les Grecs. Leur médecin des yeux avait grande réputation. Or, un œil peut être atteint de l'extérieur comme de l'intérieur. Ça, c'est Trotula qui parle. Et vous évoquez Cléopâtre, par exemple. C'est vraiment toute une fresque. Hein. Elle avait 21 ans quand César en avait 53. Quelle destinée que d'être obligée d'épouser successivement ses propres frères, puis d'être soumise à l'ennemi en personne. Cléopâtre, reine sublime et sacrifiée, je m'emparais de son texte sur la beauté, merveilleux et touchant. Elle disait que l'éclat devait être entretenu quotidiennement. Elle croisait Éthiopiens, Troglodytes, Hébreux, Arabes, Syriens, Mèdes, Parthes et Romains et parlait toutes les langues avec ses deux médecins. Cette femme Cléopâtre qui surgit.
Oui, et qui est. Alors, on n'a pas retrouvé ses écrits médicaux, mais elle en a écrit aussi. Il y a eu des femmes médecins avant. En Égypte. Il y avait même des chefs de service des pharaons, c'était des femmes. Hein. Les pharaons avaient plus confiance aux femmes médecins.
C'est curieux. Et d'ailleurs, on surnommait, j'ai appris avec vous, on l'a surnommée Philopator, qui aime son père, Cléopâtre. Je demandais à Giovanni si nous pourrions y trouver le traité gynécologique de Cléopâtre. Il me promit de le chercher. Giovanni, donc, c'est son mari. Hein. Il était peiné de voir qu'on me montrait du doigt dans la rue. J'étais la femme qui voulait être médecin. Je ne baissais pas les bras. D'autres femmes ont soigné et écrit avant moi sur nos maladies, comme Métrodora.
Oui.
Ça veut dire cadeau de maternité, d'ailleurs, en grec. Hein.
Oui.
Métrodora.
Oui.
Voilà, encore une oubliée.
Oui, mais il y en a plein.
Il y en a plein. Hein. C'est vrai, l'histoire de la césarienne, alors là, il y a vraiment beaucoup à pas dire, parce qu'elle fait vraiment des expériences, ça, le lecteur le découvrira, les naissances, cet acte de naissance, parce qu'il y en a à chaque épisode de sa vie. C'est une femme qui n'arrête pas de naître à elle-même et de faire naître les autres. Et puis, il y a des... Alors, ceux qui volent des petits trucs, par exemple, la gomme arabique, moi j'ai appris grâce à vous que c'était un coupe-feu. C'est utile, ça.
Bah, c'était les chameliers. Ouais. Mais c'est parce qu'elle est à Salerne qu'elle l'apprend. Ouais. Mais elle l'entend, mais ouais. Elle en fait quelque chose. Et elle le teste d'abord sur un chien avant de le tester sur un enfant. La gomme arabique, ça se présente comme une sorte de pâte.
Un peu gélatineuse.
Oui, et quand on l'avale, si on boit de l'eau, cette pâte va devenir comme de la guimauve. Elle va s'ouvrir et donc... Pas la peine de faire un bypass, les filles. Si vous avez trop de poids, achetez de la gomme arabique.
Voilà, achetez de la gomme arabique. La lavande aussi. Alors vous écrivez, les Romains ont parfumé leur bain et leur linge. Lavande vient du latin lavare, laver. En plus d'être aromatique, elle est thérapeutique, la lavande. Et alors il faudra, alors il y avait Néron aussi, vous parlez, un jour il faudra différencier la lavande Strocaeas de la lavande Vera. Oui. Néron l'utilisait en filtre anti-poison. Voyageons avec les mots et les langues. Je suis friand de l'origine de tous les mots, ça c'est son interlocuteur qui lui répond. Alors tu auras bonne mémoire, le mot parfum vient de par la fumée et nous revenons ainsi à l'antiquité, à l'exsudation subtile de certains arbres. On voyage beaucoup dans votre livre, à chaque phrase.
Ah oui, mais si on pouvait respirer tout ce qu'elle fait respirer dans ses livres, imaginez quand même la découverte que c'était, parce qu'au départ, c'est du texte en latin, et il y a eu des traductions en anglais. Il faut recouper tout ça et puis retrouver la fraîcheur de cette Trotula.
Et puis, à travers Trotula, Henriette Chardac, vous montrez aussi une fraîcheur des mots. Par exemple, j'apprends grâce à vous, chirurgie signifie tout simplement union de mains et du travail, des mains et du travail.
Oui, parce que chéri, même en grec contemporain, n'appelez pas quelqu'un chéri, ça veut dire les mains.
Ouais.
Et donc, par exemple, gynécologie, aujourd'hui, dans le grec moderne, ça veut dire gynéka, aujourd'hui, c'est une femme. Iatros, c'est un médecin. Tous les mots médicaux viennent en général aux trois quarts du grec.
Du grec. L'hypnose aussi, est-ce qu'elle a... Elle a été une précurseuse, elle a senti le... Enfin, on parle beaucoup d'hypnose pour une autre affaire actuellement, mais est-ce qu'elle a senti le rôle de l'hypnose en... Vas-y, vous écrivez, en Égypte, on avait étudié les rapports entre le cerveau et l'esprit, la fameuse suggestion.
Exactement.
On peut aider par les mots qui persuadent. Les Grecs pratiquaient aussi une médecine par les songes. Antiphon d'Athènes disait que la pensée pouvait gouverner le corps pour conserver la santé et lutter contre la maladie. Donc, elle explore tous les champs des possibles.
Bah, c'est-à-dire qu'elle elle sait d'instinct que lorsqu'on parle à un malade, la moitié du chemin, c'est l'écoute. Et le fait de parler, de répondre, peut soigner 10 fois plus que l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle fera faire des progrès dans les diagnostics. On va aller 10 fois plus vite, 100 fois plus vite. Mais pour soigner quelqu'un, faut l'écouter. Si c'est une machine qui vous dit « Ah, il est l'heure, et il faut prendre votre médicament. » Non, c'est autant aller voir un garagiste qui dit « Il faut changer les pneus. » Bon, elle a été imbibée dans ses 3 ans de philosophie et je pense que c'est ultra moderne de revenir à ça. Quelqu'un nous entend. Si pendant les études de médecine, on pouvait rajouter des heures de philo, c'est-à-dire savoir où ça nous mène d'être soignant. Et puis il y a des soignants malades, et ça elle le sait. C'est que on dit que les médecins sont les plus mal soignés parce que ils pensent que ça leur arrivera pas ou ils pensent qu'ils auront une réponse. Et qui les écoute? Et elle avait compris ça. Donc elle est comme une truite qui frétille et elle n'est pas engoncée dans quelque chose de carré où on dit voilà, il faut penser comme ci, il faut faire comme ça. Les cours de médecine aujourd'hui sont sans doute merveilleux, mais il manque l'humanité.
Il manque l'humanité, peut-être aussi Le sens des mots compte au moins 365 veines, une par jour pour ton souvenir et 32 dents. Tout est essentiel à la vie, tendons, nerfs et cartilages, membrane, estomac, pieds et mains, tête et cœur, rate et fiel. Et vous soulignez aussi que l'anesthésie péridurale a été rendue gratuite dans les hôpitaux italiens qu'en 2012, alors que Trotula l'a pratiquée déjà. Oui. À son époque, clandestinement, mais elle l'a pratiqué.
Et il faut quand même voir une chose, c'est que ce qu'il y a de beau chez Trotula, c'est son émerveillement, c'est-à-dire qu'elle peut être contre l'avortement et pour l'avortement. C'est-à-dire, si elle voit une jeune fille de bonne famille qui veut avorter parce qu'elle doit aller à un bal, il y a tout dans la vie. Elle va lui dire, écoute, c'est ton enfant, c'est un confort idiot, c'est très dangereux. Et ça lui est arrivé de nombreuses fois, si une jeune fille doit être mariée, qu'elle a été violée, qu'elle est enceinte, mais personne avec Trotula ne saura qu'elle a subi un avortement. Elle refait même les lèvres, elle refait tout.
Elle fait de la chirurgie
réparatrice. Le mari ne saura pas qu'il épouse une jeune femme qui n'est pas vierge, par exemple. Mmh. Elle propose même de la cire rose pour certaines, quand le mari est un petit peu, on va dire, ça plaît.
Voilà, donc, c'est vrai qu'elle est... Alors, on découvre plein de choses. L'huile hydratante qu'on appelle crème de campanie, ça, alors c'est un peu étrusque, un peu grec, c'est une crème rajeunissante, non, c'est ça?
On peut la trouver qu'en campanie.
Ah bah voilà, bon.
En revanche, je peux vous donner un masque de beauté que vous pouvez réaliser chez vous.
Ouais.
Quand je le fais, j'ai une voisine qui me dit, t'as fait un lifting? Et je dis, oui, mais il va durer que 4 heures. Vous voulez la recette?
C'est dans le livre, non?
Oui. Je vous dis les ingrédients.
Dites les ingrédients.
Il y a du miel de lavande.
Ah, encore la lavande.
Il y a un peu d'huile de sésame et du gingembre sec en poudre. Alors, tout ça bien broyé, bien crémeux. Il faut s'allonger parce que sinon ça coule de partout.
Ouais.
Vous restez 20 minutes, une demi-heure si vous tenez. Et puis vous nettoyez tout ça à l'eau de rose et vous allez voir votre peau hyper propre et hyper tendue.
Ah bah voilà, donc je suis sûre qu'il y a des auditrices qui vont peut-être suivre ce procédé. Alors la tanésie absortive, qu'est-ce que
abortive.
C'est abortive, surnommée diabolique. Alors ça c'est pour les avortements, c'est ça?
Oui, parce qu'il y a plusieurs formes d'avortement en fonction de du fruit, du fœtus. On peut le faire éjecter ou s'il faut aller le chercher, c'est différent. Donc la tanésie, ça provoque l'avortement.
Bon. Alors les oignons, c'est incroyable. Les moniales ont des belles dents car elles mangent des oignons. Ça, moi, j'ai découvert ça avec vous. Et en fait, c'est très bon pour la santé.
C'est très, très bon quand on est diabétique. Et on vient de le découvrir. Elle a remarqué que... et comment elle savait que quelqu'un était diabétique? Quand vous n'êtes pas au XXe siècle, que vous êtes au XIe siècle, comment faites-vous pour savoir que quelqu'un est diabétique, hein? Bon, eh ben vous prenez un peu d'urine et vous mettez l'urine par terre devant une fourmilière. Les fourmis aiment bien le sucre. Si elles viennent, c'est bon. Si elles viennent pas, c'est mieux pour votre santé. Et donc, elle a remarqué, puisqu'elle s'est testée, elle, pour beaucoup de choses, elle a testé l'oignon. Et dans l'oignon, il y a quelque chose... Qui est très très bon pour les diabétiques.
Donc vous dites c'est un chasseur de sucré, voilà. Mmh. Alors pareil, on apprend plein de petites trouvailles comme ça. Et puis il y a des lectures, hein, le livre des pauvres et des nécessiteux traduit par Constantin d'ailleurs. C'est une femme qui lit, c'est une femme qui s'informe. On a parlé des feuilles d'argent beaucoup. Le tilleul aussi, arbre sacré, le fameux tilleul qui était dans des et alors, à la fin de votre ouvrage, Henriette Chardac, vous rendez hommage. Donc d'abord, on apprend la mort de Trotula. Alors, faut dire que On pleura dans les maisons, personne ne parlait de ses ouvrages, tout le monde pensait à sa propre santé, retrouvée grâce à elle, à son écoute préférable à celle du confessionnal. C'était une guerrière enjouée qui avait bravé tant de blessures, de secrets et dissous tant de peurs. On pleure avec vous, oui. La mort de Trotula. Elle est morte à quel âge ?
Elle avait 47 ans.
Ouais, c'est jeune, hein, donc. Mmh. Et après, vous montrez l'après-vie de Trotula. Les historiens firent d'elle l'épouse du célèbre médecin Platerius l'aîné, c'est tout. Ils dirent qu'elle avait été l'une des plus belles femmes de son temps et que son cortège funèbre s'était étendu plus de 3 kilomètres. Ils la réduisirent à une Sapias Matrona, Mulier Sapientissima, c'est-à-dire une sage-femme expérimentée et très savante. Ensuite, elle est morte une seconde fois dans les mémoires, après avoir été payée, après avoir pillé ses livres, très peu d'auteurs ont rendu à Trotula ce qu'était à Trotula. Et vous, vous rendez à Trotula ce qui est à Trotula. Mmh. Ça, c'est un pari, c'est vraiment ce qui vous anime, ce qui vous a animé. Hein.
Oui, c'est un combat, parce que, sans vouloir faire de confidence, j'avais proposé ce livre à d'autres éditeurs, et je rends hommage au Passeur, le Passeur, mon éditeur. Ils n'ont même pas eu envie de lire mon livre parce qu'il me disait Trotula qui, Trotula quoi, mais elle n'est pas connue, ça ne se vendra pas.
Comment vous dites, peut-on omettre quelqu'un à ce point en plagiant une personne jusqu'à la moelle, on finit par la priver de sa propre existence. Et puis vous faites la liste des oubliés, parce que demain c'est la journée de la femme, hein. Ouais. Et vous faites la liste des oubliés, elle est assez longue. Alessandra Giuliani, anatomiste et assistante de Mondisol di Liuzzi, Constante Calenda, Maria Incarnata, tout oublié, vous dites. Et en la fin d'ailleurs, il y a, alors vous, ce qui est très intéressant, c'est que vous remontez jusqu'au XXe siècle. Par exemple, vous dites officiellement la première femme médecin française en tant qu'interne des hôpitaux, c'est en 1900 qu'elle fut nommée. Vous vous rendez compte le chemin qu'on a ?
Presque 1000 ans.
Oh, c'est fou ça. Madeleine Bresse, vous pourriez peut-être nous en parler, cette femme. Donc c'est une femme qui a aussi combattu. Hein,
la France. Qui s'est occupée des mères et de leurs enfants, qui a voulu faire des crèches, qui est allée en Suisse pour... Enfin, qui s'est occupé de ce que faisait Trotula, c'est-à-dire ne pas couper en deux la mère et l'enfant. C'est-à-dire qu'une sage-femme qui a accouché une maman, elle voit par où elle est passée, par où l'enfant est passé, s'il y a eu des difficultés, et c'était la même profession. Et voilà, c'est ce qui a été fait en France par cette Madame Bresse qui habitait rue de Batignolles.
Et qui fonda sa propre crèche, rue Nollet, c'est ça, où les enfants étaient gardés gratuitement.
Voilà.
Donc elle est
morte dans la misère.
En plus, voilà. Alors vous parlez, par exemple, la liste Agamédée, médecin grec, Aglanouis, enfin je prononce mal, premier astronome grec, Marie Arnaud, née en 1956, spécialiste de la résilience en milieu scolaire, Laure Bassi, mathématicienne et physicienne, Dorothea Bocchi, professeure de médecine et de philosophie, Ariette Brooke, physicienne spécialisée dans le nucléaire et la désintégration radioactive. Elle découvrit le radon et fut collaboratrice de 3 prix Nobel. Voilà. Yvonne Choquet-Bruat, physicienne française, l'une des pionnières en relativité générale. Alors la liste est longue, hein. Vous n'avez pas cité Hypatie.
Oui, mais elle est très connue.
Ouais, hein, ouais. Jeanne Dumay, astronome, Dorothea Christiane Exelban, médecin et féministe, Stéphanie Louise Kolek, chimiste, Grâce Muret. Est-ce qu'il y a une femme dans toute cette liste qui vous émeut aussi, Henriette Chardac ?
Alors, j'ai oublié son nom, mais c'était la...
Grâce Muret au père, Henrietta Swan-Levitt.
Alors, il y a deux femmes qui m'ont soufflé. Vous allez m'aider. Il y en a une qui a inventé l'Internet et qui était une actrice américaine fort connue.
Alors, c'est Grâce Muret au père, non ?
Non, il y en a une autre. Elle était comédienne.
Ada Lovelace,
non. C'en est une autre.
Eddie Lamar.
Voilà. Eddie Lamar. Merci. Et puis, le deuxième nom que j'ai oublié, comme quoi on peut traiter de l'oubli et oublier, c'était la collaboratrice de Montagnier, qui a découvert le virus du sida, et elle a été co-prix Nobel quelques années plus tard.
Bon, Eh ben, écoutez, moi, il y a une liste très, très importante. Il y a aussi Lorna Wing, Spicat, qui a découvert l'autisme. Donc, c'est important pour vous de...
Et ça, c'est qu'en médecine et sciences.
Voilà,
que,
c'est ça.
Parce qu'il y en a encore d'autres. Oui, il y en a plein d'autres qui sont restés sur l'idée de faire bien et que ça suffisait. Mais on les a mis dans l'ombre, comme je dis au début, on les a mis sous le tapis. Comme ça, on n'en parle pas et elles ont le droit de vote après la dernière guerre mondiale. Elles ont un carnet de chèques il n'y a pas très longtemps. Enfin, je veux dire, c'est un combat qui date depuis très très longtemps et il y a des poches de résistance, mais qui se font entre les hommes et les femmes, qui se mettent d'accord pour se partager un travail, une connaissance. Et on regarde pas qui est fille ou qui est garçon. Ça a toujours existé, que ça soit en Égypte, en Grèce. Et il y a toujours eu des creux où les femmes n'avaient plus le droit d'étudier, plus le droit d'être médecin. Vous imaginez, ça, c'est cyclique. Et là où il faut faire très attention, selon moi, c'est que lorsque on interdit à une femme quelque chose, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de grave. Quand on interdit l'avortement en Pologne, c'est très intéressant, ça a été appliqué. Il y a des pays où même un viol, on laisse l'enfant se poursuivre dans le corps de la femme, mais même un avortement interne, enfin je veux dire une fausse couche, et il y a des pays, je crois que c'est en Amérique du Sud, où la femme va en prison parce qu'elle ne devait pas faire cette fausse couche.
En effet.
Donc, aujourd'hui, sur la planète, il y a des femmes qui souffrent. Par exemple, en Iran, il y a des femmes qui n'ont plus le droit d'étudier. Et donc, je dis que la femme et l'enfant sont les baromètres de notre société. On a la chance en France de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire les choses. Et faire la lumière sur une femme comme Trotula, c'est aussi aider les autres pays, peut-être par contre-coup, je ne sais pas quand, mais à prendre leur destin en main.
Bien sûr. Vous dites, je propose donc l'effet Trotula pour aider partout dans le monde les filles qui veulent l'être, faire des études, inventer, vivre et participer à la bonté du monde.
Et parce que ce ne sont pas les femmes qui en ce moment font la guerre.
Non, généralement, c'est pas trop les femmes. comment avez-vous... je voudrais qu'on revienne sur votre écriture, vos recherches, Henriette Chardac. Vous avez, à un moment donné, dans votre livre, je parlais de la voix tout à l'heure. Et comment vient la voix, maman? Comment naît la voix? Il faut 9 instruments. 9, tu es sûr? Compte 2 lèvres, 4 dents suffisent, mais il faut un gosier, un palais et une langue. Si tu ajoutes le souffle, on arrive à 10. Cette voix de Trotula, comment avez-vous la restituée? Est-ce que vous avez eu des cas de conscience en vous disant, oh là, est-ce que je devrais dire ça? Ou est-ce que vous écoutez de la musique, par exemple?
Oui. Ben, j'ai écouté des chants de compagnie, où c'est à la fois oriental et italien. Et y a des choses que j'ai enlevées dans mon livre, qui est déjà assez épais, en me disant que l'imaginaire du lecteur fera le reste. Mais c'est un des livres que j'ai lu et relu à haute voix avant de le donner à l'éditeur. C'est-à-dire que quand on écrit un journal, qui n'est pas le sien, et qu'on se glisse dans la peau de quelqu'un qu'on admire, il faut pouvoir dire le texte. Et parfois je me disais, non, ça, elle ne peut pas le dire, ça. Elle ne va pas le dire comme ça.
Ouais, c'est pour ça que vous employez des mots un peu archaïsants parfois. Oui. Parce que les mots ont évolué. Vous avez des dictionnaires, vous avez... Comment, c'est votre poésie à vous?
C'est l'instinct, c'est à l'instinct. Je me dis, y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Et puis, à un moment donné, j'ai mis deux nanas qui discutent autour de Trotula avec le vocabulaire qu'on utiliserait à la fin. Pour parler d'elle. Parce qu'il y a une poésie dans cette langue napolitaine.
Vous parlez l'italien?
Non, je le lis.
Ben, c'est déjà pas mal. Hein. Comment écrivez-vous chez vous? Est-ce que vous avez des rituels d'écriture?
Oui.
Lesquels?
Alors, j'écris très tôt le matin. Et le soir, j'oublie que je suis écrivain. Et je me relis. Et tant que ça ne me plaît pas, ça ne passe pas. Et ça, c'est dans les 24 heures. Et sinon, pour une fois que j'ai trouvé la trame, comme un film... Je ne peux l'écrire qu'en Grèce, en entendant les oiseaux, en n'entendant plus aucun...
Donc vous partez en Grèce pour écrire.
Oui. Et si ça ne me plaît pas, c'est toujours le cas, tant que je n'ai pas trouvé le fil rouge, j'ai un puzzle et je ne vais pas le reformer tant qu'il n'y a pas une jouissance. Et la lumière qu'il y avait en Grèce, et je suis allée en Italie, mais bien avant d'avoir écrit ce livre, donc je connaissais exactement les lieux, et il me fallait de la lumière, il me fallait la mer pour me mettre dans la peau de ce personnage qui est entre les éléments libres et puis le carcan de la médecine de l'époque.
Ouais. Est-ce que... oui, vous avez... vous avez plusieurs tables de travail, du coup, puisque vous travaillez un petit peu partout. Combien de temps pour un livre, quand même, qui fait près de... Il fait 500 ou 600 pages, je ne sais plus.
Ben, en général, un livre, chez moi, c'est 5-6 ans minimum. Et celui-là, c'est 6-7 ans.
Ouais. Et donc, vous me disiez, vous en avez plusieurs sur le feu, plusieurs en cours d'écriture. Parce qu'il y a des livres qui vous résistent.
Bah, le
pire, ou des sujets qui vous résistent.
Le pire, c'était Cervantes.
Oui.
22 ans. Parce que il me fallait des éléments que je n'avais pas. C'est comme une enquête de police. Il faut trouver qui est le coupable, par exemple. Tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas raconter l'histoire. Mais je ne faisais pas que ça. Donc,
oui.
Mais sur 22 ans, j'ai eu à peu près 18 ans de recherche. Et puis quand j'ai trouvé l'histoire, bah, voilà.
Est-ce que là, pour ce livre, vous avez déjà des échos de lectrices ou de lecteurs? Je pense d'ailleurs dans ceux qui font, qui veulent faire médecine, qui veulent être infirmier ou infirmière. Quand ils vous lisent, ça doit être quelque chose pour eux.
Alors j'ai beaucoup d'échos, enfin beaucoup, j'en ai. Enfin, c'est déjà extraordinaire d'en avoir, de sages-femmes qui me disent toutes la même chose. Elles se sont pas concertées. C'est que c'est une femme d'avenir. Et que si seulement elles pouvaient travailler selon les préceptes de Trotula, si leur chef de service pouvait les laisser faire telle et telle chose. Parce que jusqu'à présent, une sage-femme ne peut pas faire pratiquer d'avortement. Elle doit être assistée de 4 médecins. Non mais, et oh.
Est-ce qu'on peut dire aussi que votre livre, Henriette Charda, qui est une leçon de sagesse, il y a une philosophie, vous dites, elle dit, hein, où on lui dit, je ne sais pas, c'est dans une conversation, le sage est optimiste parmi des joies simples et du bonheur domestique auquel il participe. Il n'a pas soif d'honneur, souvent amer, mais faim de concorde. Chacun ses lois, mais seule la gaieté soigne. Trotula, c'est une source de vie. Parler de la truite, mais c'est quelqu'un qui ravifie, qui nous ramifie à l'essentiel et qui se contente de peu, finalement, parce que quelle vie riche avec si peu de moyens matériels.
Oui, souvent, elle n'était pas payée. Enfin, je veux dire, c'était...
Ouais, ouais.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est le poisson qui est allé à la pêche. C'est-à-dire que cette ville, quand elle a créé cette première école de médecine dans les années 800 et quelques, 850, ceux qui l'ont créé avaient 4 religions et 4 provenances différentes. Un latin, un grec, un arabe,
voilà,
et un hébreu. Bon. Et c'est la légende de l'école. Mais la réalité de l'école, c'était qu'il fallait avoir une bonne vie, saine vie, joyeuse vie, pour éviter déjà les maladies inutiles. Et donc elle a baigné dans une atmosphère méditerranéenne, avec de quoi bien manger, bien boire. c'est son plancher, et elle va gravir une montagne, c'est-à-dire inventer la médecine gynécologique. C'est aujourd'hui, quand vous savez qu'il manque de gynécologues et d'obstétriciens, et que bientôt, ça va être un médecin lambda qui va pouvoir faire tout, il faut savoir ce qu'on veut, et je pense que c'est aux élèves médecins de décider de leur futur en fonction de ce qu'ils ont envie de faire.
J'ai inventé le mot de dévieillir, voilà, parce que dans votre façon d'écrire, Henriette Charda, il y a plein de mots comme ça qui sont des mots de vie, voilà, des petits grains de vie. Alors, vous allez, je pense, on n'est pas encore à la fin de l'émission, mais est-ce que vous avez, bon, vous, je sais que vous travaillez sur un projet, nous en reparlerons plus tard. Est-ce que, là, demain, nos auditeurs peuvent venir vous voir
Alors,
voilà, il faut que vous nous présentiez deux rencontres.
Alors, il faut les appeler pour savoir s'il y a toujours de la place. Donc demain, à la Villa des Créateurs, c'est magnifique, c'est dans le 18e. C'est une vraie villa avec un vrai jardin.
Ah oui, je vois.
Et ils m'ont invité à parler de Trotula.
Voilà.
Donc, il y aura un jeune homme qui s'appelle Ruben Volso qui dira du Rabelais.
Oui.
La naissance par l'oreille de Gargamel, c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, il y aura Baptiste Allard qui va jouer du piano. Et ensuite, je me déguiserai en quelqu'un d'autre.
Oui.
Et donc, ça se passe à la Villa des Créateurs, 9 rue Ganneron, Paris 18e. Et le contact, c'est contact@lavilladescreateurs.com ou le téléphone 06 60 95 55 40.
Voilà, peut-être répéter une deuxième fois pour nos auditeurs.
Oui, 06.
Voilà.
Facile, 06 60, voilà. 60 95 55 que des 5 et 40.
Donc demain
à partir de 19h à 21h.
Il faut s'inscrire.
Oui, parce que c'est pas très grand,
ouais.
Mais voilà. Donc, et c'est vraiment au fond du jardin.
Alors, ceux qui veulent, voilà, voir Trotula dans un cadre très vivant, voilà. Et là, sur Élysée Reclus, de nouveau,
Alors, ils m'ont gentiment invité. C'est la première fois que je vais dans un lieu aussi prestigieux pour parler de ce monsieur. Et les Reclus dont nous avions parlé. Alors, ça se passe le 21 mars oui, de cette année, oui. Pour le printemps, oui. À 18h30. Et je vous signale qu'Élise Reclus,
lapsus révélateur,
est née en 1830. Donc, c'est facile, 18h30.
Oui.
Et donc, ça a lieu au grand amphithéâtre, je découvre ça, de la Société de Géographie. L'entrée est libre.
Dans la limite des places, bien sûr.
Voilà. Et je ferai une conférence écrite qui va durer une heure.
En effet.
Et qui va faire revivre Élysée Reclus sans aucune image.
Sans aucune image. Alors, c'est Boulevard Saint-Germain, c'est ça, non l'Institut géographique. L'adresse exacte. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Une adresse
C'est Boulevard... Alors, je ne vois rien du tout.
Oui, ben moi, je ne sais pas si je vais voir mieux. Société de géographie. Oui, c'est tout petit, là. Alors là, si c'est Boulevard Saint-Germain, je crois que c'est au 100... Bon, Société de géographie. 01, ben oui, c'est trop petit là.
C'est trop petit, c'est tout.
On est un peu miro dans l'émission, on n'y arrive pas. Donc, c'est tout petit. Mais enfin, Société de Géographie, c'est Boulevard Saint-Germain. Pour les auditeurs, ils vont sur le site de la Société de Géographie. Oui. Vous êtes annoncé pour Élysée voilà. Reclus. Et puis, on peut aller sur le site des éditions Le Passeur.
Eh ben oui, qui donne tout.
Qui donne tout, absolument. Une dernière question, Henriette Charda. Quel est un peu le point commun de tous les personnages qui vous passionnent? Est-ce que, d'ailleurs, vous avez un personnage de roman préféré que vous aimez beaucoup? Et est-ce que j'ai l'impression que ce sont des révolutionnaires de la pensée, des chercheurs, des géotrouve-tout, mais je ne sais pas.
Alors, mon préféré, c'est Mikhaïl Bulgakov, un Ukrainien qui était craint par Staline, qui a été beaucoup censuré. C'est intéressant de lire ce qui avait été censuré. J'adore cet auteur. Et
personnage de roman, quel est...
Un personnage de roman...
Qui vous a fait rêver quand vous étiez... Quand vous...
Ben, c'est justement dans ce livre, quand j'étais jeune. C'est le personnage de Volande.
Oui, oui.
C'est le diable.
Ah, c'est le diable. Ah, ben voilà, avec une bonne nouvelle.
C'est Volande qui arrive en plein stalinisme.
Oui.
Et c'est un tout petit personnage qui est suivi par un chat.
Oui, voilà.
Et Bolchoï, en plein hiver, il va faire venir des vêtements de chez Dior et tout le monde se dessape. Et voilà, c'est quelqu'un qui va démontrer par l'absurde que les gens sont envieux et qu'ils ne sont pas sincères par rapport à une fiction politique, quelle qu'elle soit, et qu'il ferait mieux de s'écouter eux. Et puis le maître et Marguerite, enfin, oui. Ces deux personnages qui se parlent par télépathie, ça me plaisait bien.
Oui, c'est important, la télépathie. On ne connaît pas, on fera une autre émission là-dessus, non. Mais le point commun entre tous vos personnages, ce sont des aventuriers ?
Non, ce sont des gens comme... vous savez, dans le miel,
oui.
On vendait des miels frelatés avec de la cire au fond. Alors, on vendait du miel pour le poids de la cire. Et de ce fait-là est sorti le mot sincère, c'est-à-dire sans cire, un miel,
ah,
sans cire.
Ouais.
Moi, j'aime les gens sans cire.
Bon, sincère, la sincérité.
Ouais.
Merci à vous, Henriette Chardac, pour L'Oublier de Salerne, le roman de Trotula, médecin, sage-femme et féministe du XIe siècle. C'est paru aux éditions Le Passeur. Vous pouvez d'ailleurs, chez le même éditeur, trouver la formule poche d'Élisée Reclus, dont on a beaucoup parlé, L'Homme qui aimait la terre. C'est paru donc l'année dernière, en 2023. Puis il y aura bientôt. Et puis vous avez écrit sur Léonard de Vinci, enfin c'est passionnant, hein, sur le mystère Rabelais, ça j'aimerais beaucoup le lire. Cervantes, vous aimez les écritures nourricières, comme on dit.
Mais j'aime les gens qui, malgré leur grand pessimisme, ont un optimisme pour l'avenir, pour nous et nous pour demain, et qui nous donnent des petits outils de joie.
Voilà, vive les petits outils de joie. Sur ce, c'était mon dernier mot pour cette émission. Allez sur le site de Radio Libertaire pour écouter le podcast. Et je remercie Flaude Les Cailloux pour son accompagnement musique.
Dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine. Et qu'au parlant cambrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eût trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eût trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïs, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut sept essoines? Semblablement, tout est la reine qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine. Mais où sont les neiges d'antan? Fût jeté en un sac en Seine. Mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine. Et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Prince n'enquéré de semaine, où elles sont nées de sept ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
Mais si c'est glamour,
c'est pathétique.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
Les lycéens qu'ils ont matraqués.
Et Joachim qui perd un œil.
Oh, le taser qui peut tuer.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante.
situation, difficile de prévoir l'avenir. Après tout, ce n'est qu'une chanson, on est là pour vous divertir.
Quoi qu'il en soit, ce qu'on espère, mais ça va pas vous étonner, c'est d'avoir beaucoup mieux à faire que de chanter. La révolution. La révolution.
Faut que je chante mon obada lydie. Ô ma lydie, tu hantes mes rudes rêves au lit. Dis-tu me séduisante, riant de mes ridicules et vaines tentatives de conciliation avec tes tantes hâtives à te marier. Et avec un marchand de tapis né à Tunis, ainsi chantait un Italien pisant contre les murs d'un palais de Florence, car ce palais abritait